Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Grenoble dans l'apérophonie, une apérophonie spéciale ce soir parce qu'on accueille le groupe Dirty Sound Magnet qui est notamment en concert à la Bifurcle ce jeudi 25 septembre. Bah déjà, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que vous allez?
Salut, merci beaucoup de nous accueillir là, on est très contents de revenir en France, on est Suisse et c'est toujours un plaisir de jouer en France. Je trouve que le public français est assez connaisseur en termes de musique rock en général. Il y a un côté très artistique en France, je trouve. Et ça fait toujours plaisir de venir ici. Ouais. Donc ça va très bien.
Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous connaissent déjà par ici. Est-ce que quand même tu pourrais faire un rapide tour de présentation des prénoms dans votre groupe et aussi quels instruments vous jouez, histoire qu'on ait un portrait le plus précis possible?
Alors on est un trio. Il y a Marco qui est à la basse et qui fait les chœurs. Maxime qui est à la batterie et qui fait les chœurs aussi. Et moi-même, je fais la guitare et la voix. Et mon prénom, c'est Stavros.
Merci beaucoup. Tu disais, ouais, vous êtes content de revenir en France. Je me posais la question, est-ce que c'est la première fois que vous passez ici à Grenoble et a fortiori dans la salle de la Bifurque ?
Alors, nous avons joué dans la région. On a joué à Chambéry deux fois, une fois à Lyon il y a quelques mois. Et Grenoble, c'est la première fois. Et d'ailleurs, la bonne surprise, c'est que je crois que c'est complet ce soir. Donc, ça, c'est la bonne surprise pour un premier passage. C'est cool. Et en fait, en vrai... C'est important pour nous de jouer ici parce que c'est pas loin de chez nous. En fait, on vient de Fribourg en Suisse. Depuis Fribourg jusqu'à Grenoble, on a fait 3h30. Donc c'est pas loin en fait. On fait 3h30 pour aller à Saint-Gall également. Donc ça pourrait presque être un voyage suisse. Donc pour nous, Lyon, c'est la métropole la plus proche finalement de chez nous. Et on a très peu joué au début de notre carrière, très peu joué en France. Et même Paris est pas loin. Donc en fait, notre vrai public n'est pas le public suisse parce qu'il est, on va dire, inexistant. Parce que la Suisse, c'est un tout petit pays. Donc en fait, notre vrai public devrait être... On devrait être un groupe français, en vrai. Et on parle français. Donc on est proche de la culture française. On a grandi avec TF1, France 2, France 3. Du coup, ça fait partie de notre culture. Et c'est logique qu'on vienne jouer en France.
Alors du coup, j'espère ne pas être indiscret, mais qu'est-ce qui vous pousse du coup à rester à Fribourg et en Suisse? C'est pour des raisons simplement pragmatiques, personnelles, ou justement vous n'avez pas des envies de déménagement en France, justement?
L'intermittence du spectacle, c'est trop facile. Non, je rigole. Mais c'est vrai que le système français pour les artistes, c'est pas mal parce que ça permet de se lancer. Alors chez nous, c'est un plus grand challenge. Il y a beaucoup moins de soutien pour les artistes en Suisse. Ça se met en place. C'est, en tout cas, le système est différent. On va dire qu'en France, on soutient l'individu. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à prouver qu'il fait tant d'heures peut être soutenu par l'intermittence du spectacle. En Suisse, on va soutenir un projet plutôt. C'est-à-dire qu'on part en tournée, on reçoit des subventions pour la tournée. Alors, c'est plus difficile au niveau individuel, mais moi, je trouve que pour un projet, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, là où en France, ça peut être la faiblesse de ce système, qui est quand même toutefois très bon, c'est qu'en France, comment on soutient les personnes, ça ne va pas motiver les personnes à tout donner dans un projet. Ils vont plutôt multiplier les projets pour pouvoir avoir les heures. En Suisse, dans notre cas de figure, donc ça a une sélection énorme, parce que ça va sélectionner beaucoup de gens, mais tu dois tout donner. Et du coup, au lieu de te donner, tu ne vas pas investir en toi, tu vas investir dans le groupe. Parce qu'en tournant, si tu fais une tournée, tu vas avoir des subventions. Donc toi, en faisant des autres groupes ou des heures de techniciens en plus, ou comme ça, tu ne vas pas recevoir de l'argent pour ça. Ça rend beaucoup plus difficile, mais ça fait un peu un tri naturel. Et dans notre cas de figure, ça nous a permis quand même de faire grandir le projet. Maintenant, donc ça c'est juste une analyse par rapport aux deux pays, à quel point c'est différent. Dans d'autres pays, il n'y a pas de subvention du tout. Donc la France, c'est vraiment assez unique à ce niveau-là. De notre point de vue, pourquoi on ne bougerait pas de la Suisse? C'est une bonne question, on voulait le faire pendant longtemps. C'est vrai que le modèle économique, on va dire, pour un groupe, ce n'est pas très logique d'aller gagner, parce que la Suisse, on sait que c'est un pays cher, c'est un pays riche, entre guillemets. Donc, ce n'est pas très logique d'aller gagner de l'argent en Europe, on va dire dans des pays plus pauvres, par exemple, quand on va dans les pays de l'Est, ou même la France, les revenus sont divisés par deux, et de payer les impôts et de payer notre loyer en Suisse, c'est illogique au niveau économique. Maintenant, il y a toute une question d'infrastructure, on a notre local de répète, on a notre famille, et on a maintenant un système qui fonctionne. On fait beaucoup de tournées, on fait plus de 100 concerts par année. Donc finalement, avec les subventions qu'on reçoit de l'État suisse, ça équilibre plus ou moins. Mais peut-être qu'il y aura un certain moment où il faudra qu'on vienne vivre en France ou en Allemagne. D'ailleurs, la ville d'où on vient est bilingue. On parle autant français qu'allemand. Maintenant, nous, notre langue maternelle, c'est le français, bien sûr. Mais du coup, l'Allemagne n'est pas si éloignée pour nous, bien sûr, culturellement. La France est plus proche.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, bon, vous êtes ce soir, jeudi 25 septembre, à la Bifurque. J'ai vu que vous étiez aussi au Molotov à Marseille, et en plus, c'est complet, il me semble. Est-ce que vous pourriez un peu préciser où est-ce que vous allez après, où est-ce qu'on pourrait vous voir en concert, que ce soit en France ou ailleurs, dans la tournée qui arrive ?
Alors, cette année, on aura fait, à la fin de l'année, 100 concerts, je pense, voire plus. La semaine prochaine, on fait, je crois, Lille-Nantes. Et c'est aussi proche d'être complet, je crois. Ensuite, on part en Angleterre, dans des conditions plus extrêmes. C'est Mad Max. Tu connais Mad Max ? Voilà, c'est Mad Max. Okay. C'est le tiers-monde, l'Angleterre. Les gens ils croient que c'est un pays riche, mais non, c'est les plus mauvaises conditions d'Europe. Après, on aime bien y aller parce qu'il y a toute une culture rock'n'roll qui est intéressante, mais les hôtels, il y a des trous dans les murs et il y a le vent qui rentre dans l'hôtel. L'Angleterre, c'est comme ça, ouais. Effectivement. Et après, on va faire quelques dates en Allemagne. On tourne beaucoup en Allemagne, c'est un grand pays avec beaucoup de villes, avec la culture très développée. On joue aux Pays-Bas, tout ça c'est en octobre, donc c'est une assez grosse tournée de 20-30 dates. Et en novembre, on va pour notre première tournée au Brésil, donc ce sera assez intéressant. Après ça, on rentre, on prépare un peu la sortie et on sort notre nouvel album le 30 janvier, suivi d'une tournée énorme. Ça commence début février et pour l'instant, c'est déjà... Tout est déjà programmé jusqu'à l'été où il y aura les festivals. Donc ça va être fatigant. Ça va être très intense. Et on reviendra dans la région, je suis sûr, pour la sortie de l'album. Je pense que ce sera plutôt Lyon, vu que là, on fait Grenoble maintenant. Donc on se réjouit de toute façon de jouer en France, de manger la baguette.
Après ces premières explications, cette première mise en bouche et ces premières vannes, je vous propose d'écouter Insomnia pour cette apérophonie spéciale Dirty Sound Magnet. C'était sur leur album Dreaming Dystopia de 2023. Alors très belle écoute à vous sur Radio Campus Grenoble.
I'm
Donc tu disais ouais, que vous allez être au Brésil. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Enfin, vous imaginez que la scène et le public vont réagir comment à votre musique là-bas?
Alors notre carrière s'est plus ou moins lancée après le Covid. Ça fait longtemps qu'on fait de la musique, mais on n'avait pas trouvé les clés pour... c'est très dur hein, pour un groupe suisse où il n'y a pas d'ancrage dans la scène. Et tout s'est lancé quand on a été faire notre première tournée au Mexique après le Covid. Et on s'est rendu compte qu'on avait des fans là-bas. On jouait en Suisse et on avait l'impression que c'était... Voilà, on n'avait pas forcément un public énorme. Et on va au Mexique et on arrive dans les salles de concert et c'est complet. Ils chantent nos paroles. C'était la révélation un peu. Et ça nous a aidé ça nous a fait gagner de la présence scénique avec des gens qui chantent tout, qui sont à fond dedans. Et en plus, je pense qu'en Europe, quand les gens ont vu qu'en fait, on va à l'autre bout du monde et que les gens connaissent notre musique, ça a amené plus d'intérêt sur le groupe. Par contre, c'est des conditions aussi, c'est assez rock'n'roll, parce que c'est des autres infrastructures, c'est les câbles, ils fonctionnent pas, je me fais électrocuter tous les soirs avec mon microphone, c'est, en plus, la nourriture mexicaine, c'est bon, mais ce que leur estomac supporte, nous, on le supporte pas, donc t'es malade, c'est difficile, c'est pas facile. Donc là, au Brésil, je m'attends à un super public, parce que le public d'Amérique latine, là-bas, c'est comme si on était encore dans les années 60-70. Ils ont cette passion pour la musique. Et c'est souvent dans les endroits un peu plus défavorisés où la musique prend une importance supérieure. En Suisse, quand t'as tous les gens vivent dans un certain luxe et oisiveté, c'est plus difficile de les motiver. Alors que même en Angleterre, où en fait les gens ont une vie un peu plus rude, ils sont beaucoup plus impliqués émotionnellement dans la musique. Donc du coup, au Brésil, je m'attends à quelque chose de similaire au Mexique. D'après ce qu'on m'a dit, peut-être encore plus fou.
On verra, comme tu dis. En tout cas, ça va être trop cool. Alors, tu parlais, ça me faisait penser que votre nouvel album sort fin janvier et vous allez faire donc toute une tournée promotionnelle. Tu me disais juste avant l'interview que ça va être justement un peu peut-être plus calme comme projet. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment vous avez pensé et enregistré ce nouvel album qui va sortir ?
Alors, l'album précédent était plus calme. Celui qu'on a sorti en 2021, qui s'appelle Dreaming Dystopia. Lui, il était plus doux, il n'y avait pas de distorsion sur les guitares, c'était vraiment une ambiance, un album pour écouter dans sa baignoire. On va dire, c'est un peu plus indie folk, ou alors quelque chose comme les Beatles, Sgt. Pepper, un peu fou en même temps. Ça, c'était notre précédent album, Dreaming Dystopia. Et il était, justement, c'est une sorte de contraste, c'est que l'album précédent était complètement dingue. Il était, on va dire que l'album qu'on a sorti en 2022, DSM-3, et l'album de la rage, justement pendant cette... On avait une colère, pas individuelle, mais une colère globale de la société à exprimer à travers la musique, et avec tout ce qui est arrivé avec le Covid, tout ça. Et je pense que Dreaming in Dystopia, c'est l'album de l'espoir. C'était la lumière. Donc il y a toujours ce contraste entre l'ombre et la lumière. Très important dans la musique, je trouve, le contraste entre le volume, les différentes émotions. Et du coup, celui que nous allons sortir le 30 janvier, c'est l'album, ou 31, je ne sais plus, quelque chose comme ça, c'est l'album du mix des deux. C'est-à-dire, il y a autant d'ombre que de lumière. Il est peut-être il est plus énergique que le précédent, mais il y a quand même des moments où on va vers quelque chose de... qui fait du bien à l'âme, on va dire, dans des moments plus jolis, comme dans le précédent album. Donc c'est une sorte de mélange. Ceux qui ont fait ça avant nous, c'est Led Zeppelin, qui ont beaucoup contrasté leur musique au niveau de l'ombre et la lumière, justement.
Alors, comme je te disais juste avant aussi, je m'y connais vraiment très peu dans ce genre de... Enfin, dans la musique rock, même de manière générale, soyons modestes. Et je me posais une question toute bête. Est-ce qu'une formation à trois, comme vous êtes, est-ce que c'est relativement classique, finalement, comme format de groupe dans le... on va dire dans les courants musicaux dans lesquels vous évoluez ou pas du tout?
Il y a des groupes à trois, mais c'est plus difficile. C'est-à-dire que quelqu'un doit faire double rôle. Dans mon cas, je dois faire et la guitare et la voix. Et dans un groupe de rock... Après, il y a quelque chose qui est censé être assez magique dans le power trio. C'est comme ça qu'on appelle ça. Dans Jimi Hendrix Experience, il faisait ça aussi. Cream, il y a beaucoup de groupes qui ont... Et il y a cette énergie à trois parce qu'on va dire que c'est plus facile de jouer dans le groove à 3 qu'à 4, à 5, à 6 ou à 7. Parce que du coup, on se sent encore beaucoup plus. On remplit l'espace à 3, pas à 4. Donc il y a quelque chose de, qui est censé être très magique dans le power trio. Après, bien sûr, être à 4, à plusieurs, on va prendre d'autres formations classiques comme Pink Floyd, ils ont un claviériste, ça permet de, d'espacer les instruments, d'amener peut-être plus de largeur. Voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients. La manière dont on va faire dont on fait de la musique, et par contre, c'est elle qui est pas conventionnelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on joue de manière très naturelle. En fait, quand on parle avec nos ingénieurs du son, on leur dit mixe-nous comme du jazz. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dynamique. Il faut laisser les instruments très naturels. Il y aura beaucoup de jeux, beaucoup d'improvisation. Donc en fait, on fait du jazz violent. En fait, c'est un peu ça. C'est qu'il y a beaucoup de encore du contraste entre les moments où on est en douceur, les moments où on joue plus fort, et du coup c'est important de laisser les éléments respirer. Et cette forme à trois permet, pour nous qui jouons ensemble depuis qu'on est ados, ça fait 20 ans qu'on joue ensemble, ça nous permet de nous connaître parfaitement, on peut improviser, aller dans une direction et se suivre. Et ça, c'est la force du power trio, c'est de pouvoir s'adapter à tout moment aux variations de la musique.
C'est hyper intéressant. Une autre chose que j'ai remarqué en vous écoutant pas mal sur YouTube notamment, c'est que vous faites des morceaux, alors je parle des versions studio on va dire, qui durent parfois 3-4 minutes et d'autres qui sont beaucoup plus longs, des morceaux un peu plus fleuve. Alors j'imagine que c'est encore décuplé quand vous êtes en live, vous faites parfois durer les morceaux très longtemps. Je me demandais comment vous jonglez justement entre des morceaux on va dire relativement courts et intenses et d'autres beaucoup plus long, beaucoup plus improvisé, beaucoup plus ample. Comment est-ce que vous fluctuez entre ces différents formats de morceaux ?
Tout simplement, on a une musique qui est non codifiée. Et du coup, pour moi, la musique, dans ma philosophie de comment la musique, elle devrait être, parce que je pense que tout artiste a une sorte de vision esthétique ultime de ce qu'il imagine dans la musique, et bien pour moi, la musique, elle est infinie. Et c'est peut-être aussi quelque chose que je regrette dans certains types de musique actuelle où tout est très codifié. C'est-à-dire, si tu fais tel style, par exemple, dans les styles plus extrêmes comme le métal, si tu joues à 180 battements par minute, c'est ce style de métal. Si tu joues plus lentement, c'est ce style de métal. Et du coup, voilà, les choses sont très codifiées. Comme dans le hip-hop, on sait exactement que de telle manière, enfin, les beats ont certaines manières de fonctionner. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, j'ai toujours une vision où tout doit se mélanger. Il ne doit pas y avoir de limite. Donc, pour moi, si un morceau il doit faire 3 minutes, il doit faire 3 minutes. Si un morceau il doit faire 10 minutes, il va faire 10 minutes. Il y a pas de problème avec ça. Et c'est quelque chose que. C'est pour ça, quoi, que. On aime beaucoup la musique des années 60, 70, parce que c'est une période justement où il n'y a pas encore le digital, il faut jouer pour de vrai, donc c'est des vrais musiciens qui doivent jouer. Le business de la musique n'est pas encore développé comme il l'a été avec les super productions dans les années 80, et du coup il y a une sorte de liberté artistique. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière entre les genres. Et du coup, c'est pour ça que ce rock-là, de cette période-là, d'ailleurs, même Miles Davis s'est aventuré dans la musique psychédélique avec un album comme Beaches Blue, c'est qu'il n'y a pas de limite entre les différents genres. Nous, on peut s'appeler un groupe de rock parce qu'on utilise, à cause de la formation, batterie, basse, guitare, mais en gros, pour moi, c'est juste de la musique. Et la musique, je la vois infinie.
En parlant de musique infinie, de musique qui évolue et qui bouge sans cesse entre les codes musicaux, je vous propose d'écouter The Sophisticated Dark Ages, troisième extrait musical de cette apérophonie avec Stavros, chanteur et guitariste du groupe Dirty Sound Magnet qui passait à la Bifurque jeudi 25 septembre. Profitez bien et belle écoute à vous sur Radio Campus Grenoble. Thank you. Et justement, tu anticipes un peu une de mes questions suivantes en parlant de Led Zeppelin. J'ai vu que vous les citiez très souvent comme influence majeure. Je voulais tout simplement vous demander quelle a été votre première rencontre avec Led Zeppelin. Enfin, pourquoi ils ont une telle importance pour vous, surtout ce groupe-là?
Il y a plusieurs groupes, bien sûr. Ensuite, dans Led Zeppelin, pour moi, c'est particulier parce que c'est le coup de cœur qui m'a donné le virus. Donc, j'écoutais déjà de la musique avant. J'écoutais à la maison, j'ai entendu beaucoup de blues rock, bien sûr. Après, à l'école, le summum du rap français. Enfin, ça l'est aujourd'hui encore très populaire, bien sûr. Mais c'était un courant qui est une sorte d'ouragan musical. Donc, du coup, tout le monde écoutait ça. Quand, à l'âge de 15 ans, j'ai découvert Led Zeppelin, ça m'a fait un déclic. C'était waouh! D'ailleurs, j'imaginais que c'était musique divine. J'imaginais même pas des humains qui faisaient ça. Du coup, dès le lendemain, j'ai pris une guitare et je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. C'était réglé, quoi. Je savais. Il n'y avait pas de plan B. Depuis, on n'a jamais eu de plan B. Led Zeppelin, j'ai eu la chance de tomber sur ce groupe comme premier amour parce qu'en fait, encore aujourd'hui, maintenant que j'ai l'oreille plus développée, où j'ai plus d'expérience, plus de connaissances, je connais une variété vaste de musique, j'écoute de tout, je trouve toujours que Led Zeppelin, non seulement c'est des extraordinaires musiciens, mais ils ont fait cette musique infinie, cette musique où il n'y avait pas de limite. Les gens connaissent des fois les tubes rock, mais ils ont été bien au-delà de ça. C'est dans ça qu'on les cite, c'est que, en fait, finalement, on ne ressemble pas, si tu nous écoutes, ça ne va pas ressembler à Led Zeppelin du tout. Mais c'est la philosophie, c'est la manière d'approcher la musique qui nous inspire. C'est le fait d'être libre et de s'exprimer à travers la musique. Ce n'est pas les seuls à faire ça. Mais chez eux, il y a une richesse qui me plaît beaucoup dans la composition.
Ouais, je me rappelle, moi, quand j'étais ado, mon frère écoutait beaucoup l'album 4, forcément, de Led Zeppelin. Et je me rappelle un des morceaux, je voulais te poser une question par rapport à ça, c'était Black Dog. Vous en avez fait une reprise. Et moi, quand je l'écoutais de mon oreille d'adolescent très humble et clairvoyant, à 10-12 ans, je disais, putain, Black Dog, en fait, il crie, il chante pas. Et puis, ça, c'est un peu toujours la même chose. Et puis, Jimmy Page, il est pas dans le tempo, il est en avance. Comment est-ce que vous êtes réapproprié ce morceau Black Dog? Pourquoi vous l'avez choisi et pourquoi, j'imagine, il a encore plus d'importance peut-être que d'autres morceaux de ce groupe-là?
Alors moi, c'est le premier que j'ai entendu, c'est pour ça, je crois. C'est le premier que j'ai entendu. Mais moi, j'ai eu l'impression complètement différente de toi. Mais j'étais déjà habitué un petit peu au rock. Et c'est vrai que, alors, je vais prendre point par point. Il hurle. C'est vrai qu'il chante fort. Il chante avec beaucoup de puissance et haut. Et ça a influencé tout le hard rock. Maintenant, la différence avec Robert Plant, qui est le chanteur, c'est que lui, il fait ça de manière extrêmement naturelle. Tous les chanteurs de hard rock, après, moi, je ressens quelque chose de forcé, alors que chez lui, c'est extrêmement naturel. Donc, voilà, c'est un style, je pense, qu'il a piqué à Janis Joplin, qui chantait de cette manière-là. Ensuite, au niveau du jeu, moi, j'adore le fait que ce ne soit pas précis. Le fait que aujourd'hui tout est calé sur on a l'habitude d'entendre de la musique qui est plus humaine. En fait, c'est calé, c'est des ordinateurs. Et en fait, Black Dog est extrêmement dur à jouer parce que à chaque fois il y a une pause et le rythme repart. Donc c'est très dur de donner le signal, c'est très dur de comprendre parce que le rythme n'est pas vraiment en 4 quarts et en plus il y a des stops. Donc il y a une complexité, mais le riff est très compliqué. Il est quand même extrêmement bien trouvé. Après, ça se relance. Il y a quand même plusieurs parties pour une oreille d'aujourd'hui, ce serait déjà de la musique complexe parce qu'il y a plusieurs parties. Et le rythme, il est bizarre. Le solo à la fin, moi, je le trouve bien exécuté. Maintenant, selon les standards, moi j'adore, pour moi, Jimmy Page, j'adore son jeu parce que je le trouve déjà très riche, très expressif. Et c'est souvent dans l'erreur qu'on trouve l'expressivité, c'est-à-dire de jouer un petit peu avant, de jouer un petit peu après. C'est là où on ressent la personnalité, c'est-à-dire qu'on va le reconnaître parmi mille parce que tu sais qu'il joue de telle manière. Moi, je le trouve techniquement très, très bon. Maintenant, il y a d'autres guitaristes, par exemple Neil Young dans la folk. Alors lui, il est vraiment à l'ouest. Lui, il est vraiment... Il fait un solo. Il fait sur une note et... Mais le bend, il n'est pas très académique et des fois, on a l'impression pas très bien senti. Mais une fois qu'on s'est habitué à ça, ou si on comprend vraiment ce qu'il veut exprimer, ça devient très beau, c'est très émotionnel. Donc, je n'ai pas cette recherche de perfection dans l'interprétation, plutôt de pureté, plutôt que de, de perfection dans l'interprétation. Voilà.
Alors ça me faisait penser, tu citais Janis Joplin et le chant de Robert Plant. Hein. Rassure-toi, j'ai changé d'idée avec les années aussi hein, sur ce morceau. Et justement, toi, comment est-ce que tu envisages la voix, enfin, comment vous envisagez la voix dans votre groupe? Parce qu'il enfin, y avait aussi des chœurs. Est-ce que c'est un instrument à part entière? Et est-ce que c'est, justement, tu disais, difficile d'alterner entre le chant, la guitare? Enfin, comment ça se passe, la place de la voix dans votre groupe?
Alors, nous, à la base, on est des musiciens très stéréotypés dans notre... dans ce qui on est. C'est que moi, j'ai vraiment une attitude, enfin, j'ai vraiment une attirance, j'ai les caractéristiques du guitariste et de la personne qui compose. Donc, j'ai vraiment ces caractéristiques-là. Stéréotype, on va dire, humain. Le batteur, c'est un batteur. Il ne peut pas être autre chose qu'un batteur. Et le bassiste, c'est l'organisateur. C'est le mec qui est carré dans le groupe. Donc, en fait, on fait vraiment... On est exactement l'instrument qu'on est. Et donc, du coup, on pourrait très bien être un groupe instrumental. Maintenant, moi, j'ai toujours écrit des paroles. Et je ne suis pas chanteur à la base, mais les paroles, il fallait les mettre sur la musique. On travaillait avec d'autres chanteurs avant, jusqu'au jour où ça ne marchait pas. Et tout le monde me disait, mais fais-le, t'as le charisme, tout, puis t'as le truc pour le faire. Je me suis dit, ok, même si ce n'est pas mon truc. Et du coup, c'est devenu... alors, je mets beaucoup d'importance sur les paroles. Maintenant, ben, ça reste quelque chose qui accompagne la musique. Ce n'est pas devant. Parce que c'est pas, voilà, j'ai les stéréotypes du guitariste, donc c'est pas 100% mon truc. J'ai prends beaucoup de plaisir à le faire aujourd'hui, et j'aime bien le faire. Mais justement, comme j'ai pas un range comme Robert Plant qui peut aller dans toutes les notes possibles, j'utilise justement les deux autres, Maxime et Marco, qui font les chœurs, qui eux ont des voix beaucoup plus aiguës. Moi, j'ai une voix grave en fait, basse, et du coup, ça amène du contraste dans la musique à nouveau, avec une voix plus grave et une voix plus aiguë. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qu'on a développé au fur et à mesure des albums, et on arrive à plus contraster. Les voix, elles permettent d'ajouter des instruments. C'est qu'on n'est que trois, donc en plus, trois voix plus trois instruments, ça fait qu'on est déjà beaucoup plus. On est déjà 6.
Peut-être une autre question rhétorique, enfin, je pense que je connais déjà la réponse. Comment vous écrivez justement vos morceaux ensemble? C'est vraiment un processus très collaboratif, ou alors peut-être plus comme tu disais, c'est toi qui es davantage à la composition, puis après vous arrangez ensemble, enfin, comment ça se passe?
C'est plus ou moins ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble, comme on commence toutes les répètes. Alors, on a un groupe qui répète beaucoup. Alors, avant qu'on soit en tournée, on répète. À l'époque où on avait moins de concerts, on répétait tous les jours, 4-5 heures. Et on commençait toujours par une heure de jam. On se laisse aller, enfin à peu près une heure, on se laisse aller, on improvise, on explore des univers. Et voilà, il y a des morceaux qui sont nés de cette cohésion-là, de cette expérience-là. Puis sinon, c'est beaucoup de choses que je travaille à la maison, en slip avec une guitare acoustique, et puis après je vais au local de répétition et on joue ensemble, et là le morceau il prend des nouvelles dimensions. Donc ça reste de la musique où il y a toujours la participation des autres. Maintenant, sur un morceau que guitare acoustique voit moins, mais sur la plupart des morceaux, et même sur ces morceaux là ce sera quand même quelque chose que je vais leur faire écouter, qu'on va discuter. On va beaucoup parler de musique, de nos références, de comment ça doit être. C'est quelque chose qui nous anime dans notre vie, en fait, au quotidien. Et en fait, ça va au-delà de... je m'occupe de la composition, mais Maxime, le batteur, par exemple, s'occupe des pochettes. Donc du coup, en lui exprimant le contenu des paroles, lui, il va pouvoir faire une pochette et du visuel qui correspond. Et Marco s'occupe des enregistrements, qui est un élément essentiel, c'est-à-dire forger le son aussi. Donc au final, le produit final est un travail collaboratif de toute manière.
Quatrième capsule musicale et petit saut dans le temps, puisqu'on va s'écouter un extrait Dead Inside qui a été publié le 25 juillet 2025 en préambule du prochain album dont Stavros nous parlait, qui sortira en fin janvier 2026 avec toute une tournée promotionnelle. Je vous propose d'écouter ça tout de suite, puis de revenir à l'interview. Profitez bien sur Radio Campus Grenoble. I want to Justement, tu parlais de références et ça me faisait penser à une question un peu toute bête. Quand vous n'êtes pas en train de répéter ou de jouer ou d'être en tournée, qu'est-ce que vous écoutez pour à la fois vous détendre ou sur la route ou qu'est-ce qui vous anime aussi comme votre artiste, comme votre groupe ?
Bah, comme je t'ai dit, moi j'adore la musique 60-70, c'est mes années. C'est les années qui me plaisent, où j'aime le son, j'aime l'esthétique. Donc ça, voilà, je connais déjà... plus ou moins, il y a toujours des choses à découvrir, mais j'aime à peu près tous ces groupes, les Doors, les Stones, les Beatles, Black Sabbath, Pink Floyd, King Crimson, voilà, tous ces groupes, et j'en oublie plein, mais c'est la musique qui va me faire me sentir à la maison et bien. Après, tout ce qui est rock psychédélique post-2000 est très intéressant, post-2010 surtout, il y a eu Tame Impala, King Gizzard, il y a eu une sorte de renouveau et des groupes très intéressants qui sont sortis de ce genre-là. Le rock plus classique, il est moins vivant, je dirais. Enfin, il y a des groupes encore, mais souvent un peu moins intéressants, où ils se répètent un petit peu dans le blues rock, je dirais. Encore qu'il y a quand même des groupes qui sont cool. Mais il y a quand même une scène dans tout ce qui est un peu plus psyché, comme ça, qui est très intéressante, au niveau européen, en fait. Après, j'aime bien la musique de film. Voilà, il y a par exemple Ennio Morricone. Ça va toujours être une référence, même avant qu'on enregistre un album. parce que j'adore le son, j'adore quand j'écoute un enregistrement, quand au lieu d'entendre un studio d'enregistrement, donc j'entends quelqu'un qui a mixé ça et j'entends des machines, au lieu d'entendre ça, je préfère entendre quelque chose qui me fait rêver. Et quand j'écoute Ennio Morricone, bah, par exemple, quand on entend la bande son d'un western, j'ai l'impression d'être dans le désert. C'est-à-dire que l'enregistrement analogique de ces années-là, il va me faire penser à quelque chose de poétique plutôt qu'à un environnement de studio. Donc c'est vrai que ce type de musique, c'est de nouveau ces époques-là. C'est pré-digital, ça va toujours beaucoup m'inspirer. Le classique, de toute façon, me plaît aussi. Le jazz, plus Marco. Marco et Maxime vont être plus jazz. Moi, j'aime bien Miles Davis, mais finalement, c'est celui qui se rapproche le plus de notre philosophie, finalement. Alors, la pop, je vais écouter. Si quelqu'un me dit qu'il y a quelque chose de super qui est sorti, je vais de toute façon... Il y a des choses qui peuvent me plaire. Maintenant, pour le plaisir, c'est vrai que ça a moins me faire plaisir parce que je trouve toujours les super productions moins authentiques. C'est-à-dire, dès qu'il y a plein de producteurs derrière, ça va de toute façon un petit peu moins me parler. Et peut-être aussi que ma période où je découvre tout le temps de la musique, elle est peut-être un petit peu passée. Je continue à découvrir, mais beaucoup plus lentement. C'est qu'on fait tellement de musique, on écoute tellement de musique que... Bah, en dehors, j'aime bien aller jouer au tennis de table.
Voilà. Ça me faisait penser, tu parles de certains groupes actuels et d'une scène rock psyché, appelons ça comme ça, assez intense. Est-ce qu'il y a des artistes, des groupes avec lesquels vous aimeriez collaborer? Ou est-ce que, ne serait-ce que pour un morceau, ou même un album, ou un EP, ou une petite tournée, ou est-ce que vous tenez quand même à ce format de trio?
Ça m'a jamais trop... inspirer les collabs. Je sais que ça a pas mal été fait. C'est plus à la mode dans l'histoire récente. Maintenant, j'ai l'impression... Enfin, je vois pas... Tant qu'on a de l'inspiration, tant qu'on a envie de faire de la musique, les trois, pendant que l'envie est là, j'ai pas particulièrement cette envie. On nous demande de temps en temps. Mais en fait, je pense que ça peut être très intéressant. Mais si on faisait des collabs, je ferais des collabs avec... des musiciens d'autres continents, par exemple des musiciens, des percussionnistes venus d'Afrique, par exemple, des choses, ça m'intéresserait, ce côté un peu plus world music m'intéresserait. Voilà, j'aime bien la musique du monde en général, ça me parle, ça c'est quelque chose qui me plairait bien, ouais, effectivement.
Peut-être avec des artistes du Brésil, quand vous y serez, peut-être qu'il y aura des pistes à explorer pour des collaborations avec des gens du Brésil. Alors, une dernière question, tu parlais de votre nouvel album qui va arriver en 2026 avec la tournée. Est-ce que vous avez malgré tout d'autres morceaux, enfin d'autres projets déjà au-delà de ça qui sont en cours?
Ouais, il y a pas mal. Alors, pour la première fois de notre histoire, on a toujours eu beaucoup de morceaux en stock. Et là, il y en a un peu moins. Il y en a quelques-uns. Il y a de quoi faire un album de toute façon. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y en avait tellement de morceaux, vu qu'on avait répété tellement d'années dans notre local, que ça a pris du temps à sortir à peu près toute la musique qu'on avait accumulée après toutes ces années de répétition. Donc maintenant, on est dans un stade où c'est un stress, t'as envie de les sortir, ces morceaux. Maintenant, on peut respirer. Maintenant que cet album va sortir, on peut un peu respirer. Et on va bien sûr travailler de la nouvelle musique, parce que dès que t'as fini l'album, tu te mets tout de suite au prochain. Mais maintenant, ce qui serait important pour moi, c'est de réussir, parce qu'il y a notre musique studio, et j'aimerais bien qu'on puisse transmettre l'énergie live sur album. Et j'aimerais faire plusieurs projets en tête, dont un album live. Donc on enregistre donc le concert de ce soir, tous les concerts, pour sélectionner les moments magiques. Il faut que ça sonne bien, il faut qu'on joue bien, que la performance soit là. Mais ça, c'est un des projets qui est en route. Ensuite, j'aimerais nos morceaux, on les sort sur album. Et après, on les joue sur scène. Et sur scène, ils évoluent et ils grandissent. Et en fait, toutes ces versions, j'aimerais les re-enregistrer. Donc la version A, c'est ce qu'on entend sur l'album. Et en fait, à la fin du cycle, c'est la version A'. Et ça, j'aimerais bien les enregistrer, ou presque, ça vient presque des versions B. Il y a des choses qui changent complètement, l'arrangement change, et j'aimerais bien, un jour on a le temps, on peut prendre plusieurs semaines pour ça, enregistrer tout notre répertoire et faire des sessions. C'est des sessions live en studio où on enregistre, on joue, on est décontracté. Et j'aimerais un peu, c'est un peu de un travail de conservation en fait. Et je pense qu'on va le faire, mais il faut qu'on ait le temps. Pour l'instant, on est dans une logique, dans une sorte d'urgence où il faut être sur la route pour gagner de l'argent, pour pouvoir survivre. Voilà, c'est là que peut-être en France, l'intermittence du spectacle te permettrait de souffler un petit peu. Là, il faut qu'on soit chaque mois en tournée, parce que si tu ne fais pas de concert, bah, tu n'as pas d'argent qui rentre et tu ne payes pas ton loyer. Donc il y a cette sorte d'urgence qui ne permet pas de respirer et prendre les choses avec.
Il nous reste donc un dernier morceau à écouter, celui-ci, extrait de l'album Transgenic de 2019, dont Stavros nous parlera aussi pendant cette chronique. Comme toujours, hein, et vous avez pu l'entendre depuis le début de cet épisode, des morceaux très péchus, très dynamiques, avec beaucoup de variations, et que nous éclaire Stavros aussi dans ses explications. C'est Social Media Boy de Dirty Sound Magnet pour cette apérophonie spéciale en leur compagnie. Alors très belle écoute à vous sur Radio Campus Grenoble.
We don't know why.
Merci beaucoup. Peut-être une toute petite dernière question éventuellement pour les personnes qui pourraient pas être là ce soir ou qui connaissent pas forcément votre musique. Peut-être la question est un peu bizarre, mais qu'est-ce que tu conseillerais d'écouter peut-être d'abord dans votre discographie pour avoir la meilleure compréhension de votre musique et de l'évolution de votre musique? Alors peut-être tu vas me dire écoutez tout ou venez nous voir, mais est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais peut-être pour voilà, vous découvrir un peu mieux et puis petit à petit explorer votre musique de la meilleure des manières?
Je trouve que c'est une très 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 bonne question. En tout cas, très relevant, très, très pertinente par rapport à ce qu'est notre groupe, parce que comme justement c'est de la musique d'album, c'est-à-dire que l'album il est pensé, il a un début, il a une fin. On n'est pas un groupe à single, donc on n'a pas forcément des hits, des tubes. Et surtout, comme on a beaucoup de diversité, peut-être que tu vas aimer un album et tu ne vas pas aimer l'autre. Tout dépend de ce que les personnes veulent. Donc si je fais un rapide tour d'horizon, notre premier album Western Lies, pour moi c'est, ben voilà, c'est un album que peu de gens connaissent aujourd'hui, mais pour moi c'est la pépite oubliée de notre discographie, parce que c'est un album qui ressemble à rien du tout, ni à du psyché, ni c'est une sorte de mélange entre beaucoup de genres différents, et je trouve vraiment que c'est un ovni. Il s'appelle Western Lies, il a justement peut-être un peu de fragilité, un peu de jeunesse, mais je le trouve... voilà, je le trouve très unique dans son genre. Le deuxième album, Transgénique, c'est pour les gens qui aimeraient une histoire, un concept album. Donc c'est plus progressif. Il y a beaucoup de morceaux de cet album qu'on joue encore aujourd'hui en live. Ensuite, il y a l'album Live Alert, qui est notre premier album qui a eu une sorte de succès, qui nous a fait connaître auprès des gens. Live Alert, c'est tout simplement certains morceaux de ces deux premiers albums joués en live dans notre local de répète. Donc c'est ce projet de conservation en gros, mais qui a été fait pour les deux premiers albums. Ce Live Alert est très apprécié par le public parce que les deux premiers albums sont produits, c'est des albums studio où on a fait des expérimentations et comme ça. Et ce que les gens aiment quand ils viennent nous voir, c'est nous voir jouer les trois ensemble. Et sur Live Alert, c'est la première fois où tu nous entends, cette énergie, l'énergie que tu entends en live, tu l'entends en studio. Et depuis ce moment-là, on a tout enregistré en live, en fait. C'est-à-dire en studio, mais ensemble, jouer ensemble, et le plus authentique possible. Donc, dès ce moment, je trouve qu'on a trouvé la manière d'enregistrer notre musique. Donc, Live Alert, très apprécié pour les gens qui veulent plus d'interprétation, donc des solos de guitare, du jeu, de l'impro. Ensuite, il y a DSM3. C'est l'album qui a le mieux marché, on va dire, entre guillemets. Voilà, parce que je pense que il est psyché, énergique. Il a un morceau que les gens aiment beaucoup, Mr. Robert. Et je sais pas, il y a aussi peut-être un côté plus blues rock sur certains morceaux un peu plus classiques qui fait que les gens peuvent rentrer dans notre musique. Voilà. Et ensuite, il y a l'album Dreaming Dystopia, qui est mon préféré, parce que pour moi, c'est le plus mature, où c'est le mieux composé, où les morceaux sont le plus raffinés, à mon goût. Maintenant, c'est les gens qui veulent du rock, ben c'est pas vers cet album qu'ils doivent se tourner, c'est un album de indie folk, c'est spécial, c'est de la musique assez particulière, c'est mon préféré, mais je sais pas si c'est la bonne porte d'entrée. Alors il a des morceaux qui sont très accessibles parce qu'ils sont presque plus pop, un ou deux comme Lonely Bird, enfin ça reste très indé, mais c'est un que je conseillerais à quelqu'un qui a envie de pas forcément quelque chose qui est très énergique. Et le nouveau, ben c'est le résumé de tout ça. Il sort en janvier. Donc, je pense que c'est le condensé d'un peu tout ça. Et du coup, je pense que c'est l'album qu'il faudra écouter. Mais en fait, en gros, il y a un outil qui est pas mal aujourd'hui. C'est que tu vas sur Spotify et voilà, il y a des playlists ou sur n'importe quelle plateforme de streaming, même si je préfère que les gens écoutent les albums. Mais en gros, mon conseil serait une fois que tu repères un morceau qui te plaît, écoute l'album. Et je trouve que c'est important, les albums, parce que ce qui est magique dans un album, c'est qu'au début, tu aimes une chanson, puis tu as la chanson d'après, par exemple. Au début, elle ne te parle pas trop. Au début, tu aimes la 2 et la 6. Puis en fait, la 7, elle ne te parle pas. Mais au fur et à mesure des écoutes de l'album, peut-être la 7, celle que tu aimais le moins, ça va être celle que tu aimes le plus au final, parce que justement, c'est pas ce que tu attendais, mais ça te fait découvrir quelque chose qui t'est étranger et du coup avec lequel tu peux tomber amoureux. Donc j'adore le concept de l'album. Pour moi, c'est ce qui me fait aimer la musique, c'est le fait de pouvoir exprimer une vision artistique sur la longueur. Donc voilà, mon conseil, c'est d'écouter un album, en tout cas. à nos albums.
Merci infiniment pour toutes ces précisions. Alors bon, je rappelle que vous passez ce jeudi 25 septembre. Bon, comme l'émission va être après le concert, vous êtes passé à la Bifurque et vous avez quand même plein d'autres dates. Merci infiniment vraiment pour ton temps et tous tes éclairages. C'était hyper passionnant. Et puis peut-être à très bientôt et en tout cas très bonne continuation pour vos projets.